Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de passer ces instants avec vous.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Car c'est dans la Bible que nous rencontrons Jésus, notre espérance dans ce monde malheureux.
Dans un instant, nous poursuivrons notre série de discussions sur le thème de la violence. Et nous verrons comment Jésus a réagi devant ce problème.
Ensuite, nous conclurons par une courte méditation biblique sur une invitation royale.
La violence est un phénomène qui préoccupe de nombreuses personnes aujourd'hui, un phénomène qui brise d'innombrables vies. Nous voulons dans Espérance aujourd'hui parler de ce problème à la lumière de la Bible. Pour le faire, j'ai de nouveau invité André, qui s'intéresse tout particulièrement à l'application de la Bible aux problèmes contemporains. Bonjour André.
Merci et bonjour à tous.
André, nous avons annoncé la dernière fois le sujet de discussion pour aujourd'hui. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit?
Oui, bien sûr. Nous allons aborder le thème « Jésus face à la violence ».
Et en quoi ce thème est-il important dans notre réflexion sur la violence?
La Bible dit que Jésus-Christ est le nouvel Adam ou le second Adam. Adam était le premier homme créé par Dieu, mais par sa désobéissance, les choses ont vite mal tourné et l'humanité a sombré dans le mal et le malheur, dont la violence est l'un des aspects. En disant de Jésus qu'il est le nouvel Adam, nous affirmons que dans son humanité, il agit et réagit exactement, parfaitement comme Dieu le désire. Ainsi, il est un modèle, un exemple que nous devons suivre en toutes choses, y compris dans son attitude envers la violence.
Avant de nous éclairer sur l'attitude de Jésus face à la violence, pouvez-vous nous expliquer le contexte de son enseignement et de son exemple?
Oui, Jésus a vécu dans un pays occupé par une armée ennemie, en l'occurrence les Romains. L'on peut supposer que ces soldats n'étaient pas forcément très tendres envers la population. De surcroît, certains juifs menaient une résistance violente contre cette occupation. Quelques-uns commettaient des meurtres et des attentats. Les Romains exerçaient leur vengeance en massacrant parfois des innocents. Jésus savait ce qui se passait autour de lui, mais il voulait tracer une autre voie que celle de la répression. Il enseignait à ses disciples « Aimez vos ennemis ».
Oui, nous allons réfléchir sur le sens de ces propos une prochaine fois. Mais André, Jésus a rencontré la violence de beaucoup plus près, non?
Bien sûr. Pendant les dernières heures de sa vie, Jésus a été plongé dans un tourbillon de violence. Il a été trahi par l'un de ses disciples et livré entre les mains de soldats brutaux. Condamné injustement à la peine de mort, il a été battu, flagellé et cloué sur une croix devant une foule hostile. Jésus a pleinement ressenti toute la douleur et l'humiliation, toutes les conséquences de la violence dans son corps et dans son âme. Jésus a subi une mort violente.
Maintenant, pour revenir à la question qui nous intéresse, quelle était l'attitude de Jésus face à cette violence?
Permettez-moi de lire quelques paroles de l'évangile de Luc, chapitre 22. Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit « Laissez, cela suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit.
Et que faut-il retenir de ce texte alors?
Ce texte représente un exemple, parmi d'autres, de la manière dont Jésus a réagi face à la violence et son attitude doit nous conduire à remettre en question nos propres réactions. Tout d'abord, nous notons que Jésus n'a pas répondu à la violence par la violence. Il a empêché ses disciples de se battre. Jésus a préféré ne pas résister. Il n'approuve pas la violence, ne s'en sert pas, et il était prêt à payer le prix de cette conviction, prêt à mourir pour, entre autres, ne pas aggraver le cercle vicieux de violence.
Mais il ne faut pas oublier que, selon la Bible, si Jésus s'est livré entre les mains des hommes violents, c'était dans un but précis, obtenir le salut des hommes et des femmes, procurer le pardon de nos péchés. Est-ce que cela change notre regard sur ces événements?
Vous avez raison de dire que l'acte de Jésus représente un cas unique. Toutefois, je pense que son comportement doit servir comme un exemple et même s'il soulève des questions difficiles, cet exemple doit nous faire réfléchir.
Et en quoi consiste l'exemple de Jésus pour vous?
D'abord, Jésus refuse de prendre le chemin de la violence, même quand il est fortement provoqué, même quand il subit la brutalité des autres. Pour Jésus, la violence n'est pas une option. Il ne s'en est jamais servi pour accomplir ses objectifs. Pour Jésus, on ne règle pas ses problèmes par la violence, cela ne fait qu'aggraver les choses. L'on doit trouver d'autres moyens de régler ses problèmes.
Il me semble intéressant de noter que lorsque l'un des disciples de Jésus a coupé l'oreille de l'esclave, Jésus a en effet guéri cet esclave, qui quand même accompagnait ses ennemis.
Tout à fait. Jésus ne se contente pas de s'abstenir du mal, mais il fait le bien, même envers ses ennemis. Ceci montre que Jésus met en pratique son propre enseignement. Voilà un exemple de ce que veut dire « aimer ses ennemis ».
Y a-t-il d'autres exemples dans les évangiles?
Je pense à Jésus pendu à la croix, regardant autour de lui la foule méprisante, voyant leur haine, entendant leurs moqueries. Il dit « Père, pardonne-leur ».
Oui, c'est l'un des versets les plus émouvants des Écritures. Mais en quoi consiste l'exemple de Jésus ici?
D'abord, Jésus prie pour ses ennemis. Et quelle prière! Il ne demande pas à Dieu de les punir, mais de leur pardonner. Vous vous rendez compte? Jésus, pendu à la croix, dans l'agonie atroce, est disposé à pardonner ceux qui l'avaient rejeté, condamné et cloué. Dans ces conditions épouvantables, Jésus désire ouvrir la voie à la réconciliation. L'exemple pour nous est de prier pour nos ennemis, car c'est dans la prière que nous trouverons la force d'aimer et de pardonner nos ennemis. Ensuite, d'être toujours disposé à œuvrer pour la réconciliation. Jésus a dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils ». C'est une citation de Matthieu 5, verset 9. Elle signifie que Dieu approuve et bénit ceux et celles qui cherchent à rétablir la paix là où la violence a brisé les relations humaines.
Nous pouvons avoir le sentiment que les actes et les paroles de Jésus pour œuvrer la réconciliation ont échoué. Car ce sont les violents qui semblent gagner la partie. Et aujourd'hui, la vague de violence paraît si irrésistible que toute tentative de s'y opposer, par l'amour et par la paix, semble vaine.
Il est vrai que toute personne désirant suivre les traces de Jésus sur ce point rencontrera danger et souffrance. Mais Jésus nous appelle à une vie juste, non à une vie facile. N'oublions pas toutefois que la victoire finale appartient à Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts. Il règne aujourd'hui comme Seigneur et demain comme juge. Le jour viendra où justice sera faite, où tous ceux et celles qui n'ont pas renoncé à la violence seront condamnés, alors que ceux et celles qui ont suivi le chemin ardu tracé par Jésus entreront dans la plénitude de leur récompense. Il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Ceux qui vivent l'amour de Christ dans un monde violent peuvent être utilisés pour faire pencher la balance en faveur du bien. Dieu, par son esprit, se servira d'eux pour transformer la vie d'un individu ici et là, transformer la vie d'une famille, ou bien même d'un village tout entier. Chercher à briser le cercle vicieux de la violence n'est pas vain. Il s'agit plutôt d'un ministère qui honore pleinement Jésus.
Certains rencontrent la violence au sein de leur foyer et peuvent en porter les conséquences en silence pendant de longues années.
Que dit la Bible à ce sujet? Apporte-t-elle un espoir à ceux et à celles qui en souffrent?
Voici quelques-unes des questions que je poserai à André lors de notre prochaine émission.
Mais maintenant, pour introduire notre méditation biblique, nous allons lire quelques paroles tirées de l'Évangile de Matthieu au chapitre 22. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas, mais les invités ne veulent pas venir.
Tout le monde aime la fête, et les occasions qui apportent le plus de réjouissance sont souvent les festins de mariage. Plus l'hôte est important, plus vous pouvez vous attendre à un banquet somptueux et à des célébrations mémorables. Et si cette invitation venait d'un chef de village ou encore d'un roi, je pense que vous n'hésiteriez pas à accepter. Vous vous empresseriez de dire oui et vous attendriez ce jour avec impatience. Lorsque Jésus prend la parole pour parler en parabole, il dépeint souvent une image qui s'inspire de la vie de tous les jours, afin de nous aider à mieux saisir les leçons spirituelles. Jésus affirme donc dans le passage lu que Dieu agit comme un roi qui invite ses sujets à un grand festin. Que voulait-il dire par cela? Un festin est une occasion de se réunir avec d'autres, un moment où l'on prend le plaisir à être dans la compagnie de ses proches pour passer de bons instants d'amitié et de réjouissance. L'hôte fait tout ce qui est en son pouvoir pour accueillir au mieux ses invités, pour offrir une bonne ambiance et fournir un repas savoureux. Il désire montrer sa largesse et donner le meilleur de lui-même. Et si Dieu était comme ça? Parfois, Dieu est représenté comme un gendarme céleste ne cherchant qu'à gâcher nos vies par une liste interminable de règlements pointilleux. Mais non! Jésus dépeint un Dieu qui s'offre à chacun et à chacune dans la plénitude de sa bonté et de sa largesse. Jésus dit, par le biais de cette invitation merveilleuse, que Dieu désire nouer une relation personnelle avec les hommes et les femmes, une relation que nous avons brisée nous-mêmes à cause de nos fautes. Dieu propose d'effacer ce passé, et le festin qu'il offre devient aussi un repas de réconciliation. Dorénavant, nous pouvons passer du temps avec Dieu. Nous pouvons jouir de sa compagnie et entrer dans l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde. Dieu nous offre son amitié. Il n'est ni lointain, ni inaccessible. Nous pouvons entrer dans sa présence. Quel privilège de se faire inviter par le roi de l'univers! Quel honneur de pouvoir s'entretenir avec lui, d'être compté parmi ses proches, d'être au nombre de ses amis. À notre grand étonnement, Jésus raconte dans cette parabole que les invités n'ont pas répondu à cette invitation du roi. Pourquoi ont-ils fait cela? Nous y réfléchirons la prochaine fois. Il suffit de vous demander. Aujourd'hui, avez-vous répondu à cette invitation? Êtes-vous réconcilié avec Dieu? Avez-vous rencontré ce Dieu si bon et si généreux qui offre le meilleur de lui-même?
La prochaine fois, Yann nous parlera encore de cette parabole surprenante.
La violence n'a pas eu le dernier mot sur Jésus. Par sa résurrection, il en est sorti plus que vainqueur. Aujourd'hui encore, il vous invite à renoncer à la violence et à suivre un chemin meilleur.
Celui de la réconciliation avec Dieu et de l'amitié entre les hommes.
En espérant vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et à la prochaine.
À bientôt et que Dieu vous bénisse.